France Musique. Musicopolis. Charles de Brosse arrive à Rome. Charles de Brosse, dit le président de Brosse parce qu'il a été haut magistrat au tribunal de Dijon, est un juriste, historien, linguiste, écrivain qui a fait un beau voyage en Italie en 1739 avec quelques amis. Or, de Brosse n'est pas seulement érudit et féru d'études latines, c'est aussi un grand mélomane. Et dans les lettres qu'il écrit de diverses villes de la péninsule, il ne manque pas de signaler toutes les occasions musicales qu'il peut rencontrer. Musicopolis l'a déjà accompagné à Gênes, Milan, Vérone, Venise, Padoue, Bologne et Naples. Aujourd'hui, nous arrivons à Rome en sa compagnie. Pour reprendre la chose d'a capo, écrit Charles de Brosse, ce fut le 19 octobre sur le soir que nous aperçûmes enfin cette bien-aimée ville de Rome, principal but de notre course. Le dôme de Saint-Pierre est le premier objet que l'on découvre à cause de sa grande élévation, quoique l'église soit construite dans le terrain de la ville le plus bas et le plus marécageux. Charles de Brosse décrit pour ses amis les merveilles de Rome et aussi ses contrastes. « Tout est de palais ou de cabanes », affirme-t-il. « Un bâtiment superbe est entouré de 100 mauvaises maisonnettes. Quelques grandes rues principales d'une longueur sans fin, alignées à merveille, presque toujours terminées par de beaux points de vue, servent heureusement à se retrouver au milieu d'une foule de cul-de-sac, de ruelles tortueuses ou de mauvais petits carrefours. » Il n'y a rien de plus aisé que de savoir la ville en gros, et rien de si difficile que de s'en démêler en détail. Quant au peuple, dit encore de Brosse, il est composé d'un tiers de prêtres, d'un tiers de gens qui ne travaillent guère, et d'un tiers de gens qui ne font rien du tout. Thank you. Charles de Brosse admire les monuments, les palais, les statues et les peintures, il espère bien aussi se régaler d'opéra. Il y a plusieurs théâtres spécialisés dans ce genre à Rome. Il choisit le Capranica. Je n'ai garde de vous en dire aucun bien, écrit-il. Il m'en a coûté mon bel argent pour y louer une loge pour tout mon hiver. Je n'y suis allé qu'une fois à la première représentation de Mérope, qui s'est fait attendre très longtemps après le jour indiqué, et je payais à la porte, car les abonnements ne sont pas comptés aux premières représentations. J'étais mal assis, il y avait une foule à étouffer, les décorations n'étaient ni finies ni tendues, on voyait les murailles de tous côtés, les violons ivres, les rôles mal sus, les acteurs enrhumés. Une Mérope abominable, un polyphonte à rouer à coups de canne. Le lendemain, le gouverneur fit mettre en prison l'entrepreneur, la pièce et les acteurs. Je n'ai revu ni l'opéra, ni mon argent. Grâce à Monticelli, néanmoins, je ne compte pas avoir tout perdu. Le plaisir de l'entendre valait plusieurs sequins. Lui seul savait son rôle. Il a joué et chanté comme un ange. C'est une des célèbres voix d'Italie, du genre de celle qu'ils appellent « voce di testa », d'une étendue, d'une finesse et d'une légèreté de gosier impayable. Charles de Brosse célèbre Monticelli, un castrat fameux qui fait à l'époque une belle carrière, non seulement dans toutes les grandes villes d'Italie, mais aussi à Munich, à Vienne et bientôt à Londres. Pour ce qui concerne Rome, il faut préciser que seuls les hommes étaient autorisés à monter sur scène, ce qui fait que même les personnages de femmes étaient chantés par des hommes. Monticelli a été longtemps spécialisé dans les rôles de prima donna. Notre voyageur français à Rome profite de tout ce qu'il peut faire dans la ville, dans tous les domaines, même celui de l'édification. Il serait à propos, raconte-t-il, de faire un tour à l'église. Il y a fonction aujourd'hui et grande foule. Si vous voulez voir l'enterrement et le catafalque du cardinal Davia, spectacle assez beau, venez avec moi à San Lorenzo in Lucina. Aussi bien est-ce notre paroisse et je n'y avais pas encore mis le pied. Mais diantre, il n'y a qu'un moment que j'y suis et on m'a déjà volé dans ma poche deux mouchoirs et une tabatière. Ah, monsieur le curé, si vous ne faites pas mieux observer la police dans votre église, vous n'aurez pas en moi un paroissien bien assidu. S'il apprécie beaucoup les monuments qu'il voit à Rome, Charles de Brosse ne ménage ni ses compliments, ni ses critiques lorsqu'il en a, et d'une manière générale, il ne mâche pas ses mots. À propos du Panthéon, par exemple, il écrit « C'est un meurtre que d'avoir converti ce fameux temple en église. Il fallait le laisser Panthéon tel qu'il était. Pour y placer, dans les interstices des colonnes au-dedans et sous le portique au-dehors, les plus belles statues antiques. On aurait vu là rassembler les restes les mieux conservés de toute l'Antiquité. On y a seulement placé les bustes de quelques artistes illustres, mon cher Raphaël et deux de ses élèves, Jean Dudine et Pierino del Vaga, le célèbre Algarde, Archange Corelli, etc. Pour Corelli, c'est le cardinal Ottoboni qui vient d'y faire placer la figure de cet habile musicien. Charles de Brosse, voyageur français à Rome, a l'occasion de rentrer en contact avec de nombreux étrangers. « Les Anglais fourmillent ici », déclare-t-il. « C'est la nation chérie des Romains, en faveur de l'argent qu'ils apportent, car le fond du cœur est pour les Allemands, par toute l'Italie. » Je m'aperçois qu'en général, il n'y a point de nation moins aimée que la nôtre. Ce qui ne vient que de la mauvaise habitude où nous sommes, de donner hautement partout la préférence à nos mœurs sur celles des nations étrangères, blâmant sans égard tout ce qui ne se fait pas comme chez nous. Parmi les Anglais que fréquente Charles de Brosse à Rome, les deux fils en exil de Jacques III, écarté du trône d'Angleterre. Les jeunes princes, écrit de Brosse, sont tous deux passionnés pour la musique et la savent parfaitement. L'aîné joue très bien du violoncelle. Le second chante les airs italiens avec une jolie petite voix d'enfant du meilleur goût. Ils ont une fois la semaine un concert exquis. C'est la meilleure musique de Rome, je n'y manque jamais. « j'entrais pendant qu'on exécutait le fameux concerto de Corelli appelé La Notte di Natale. Je témoignais du regret de n'être pas arrivé plus tôt pour l'entendre en entier. Lorsqu'il fut fini et qu'on voulut passer à autre chose, le prince de Galles dit « Non, attendez, recommençons ce concerto. Je viens d'ouïr dire à monsieur de Brosse qu'il serait bien aise de l'entendre tout entier. » Charles de Brosse est un guide parfait. Il nous fait partager ses impressions pendant qu'il arpente la ville de Rome. La place Navone, assure-t-il, serait un magnifique lieu s'il n'était pas si sale. Mais comme on y tient le marché aux herbes et autres, c'est pis que la place Maubert. Il faut avouer néanmoins que les fontaines valent un peu mieux que celles de la place Maubert. Presque toute une des façades de cette place longue et étroite est formée par l'église de Sainte-Agnès et par l'ancien palais des Pamphili, deux édifices aussi superbes qu'on puisse se le figurer. Notre pape, Corsini, faisait sa demeure en ce palais avant son élection au pontificat. Il était, étant cardinal, le plus grand seigneur de Rome, et de plus, dit-on, un des bons violons d'Italie. J'aurais bien voulu entendre une sonate de Corelli de la main de sa sainteté, mais le pauvre homme ne joue de rien, si ce n'est qu'il jouera bientôt de son reste. À lire Charles de Brosse, on se rend compte des nombreuses occasions d'entendre de la musique à Rome. Chez les cardinaux, les princes, les ambassadeurs, à l'opéra et bien sûr à l'église. Par exemple, à la chapelle des Pères de l'Oratoire. On y chante des dialogues, nous dit notre voyageur, de petits opéras sacrés. Saint Philippe de Néri, sachant bien que nous ne nous passerions pas de spectacle, a, dit-on, inventé ceci pour nous détourner de ces vilaines tragédies profanes. Ce qu'il y a de plus sûr, c'est qu'il nous a donné un spectacle de plus, et je lui en sais bon gré. Arrivez de bonne heure, car tout ici mérite votre présence. L'assemblée, les voix, la musique, la maison, l'église, la chapelle, les stucs, les statues, tout y est brillant, agréable et d'un grand goût. parmi les mélomanes romains, l'un des plus fanatiques est sans doute le cardinal Otto Boni. Il a été jusqu'à se faire construire chez lui un petit théâtre qui, dit-on, lui a coûté fort cher. Il y fait entendre toutes sortes de musiques, comme les psaumes de Marcello. La musique religieuse, le cardinal Otto Boni a voulu faire entendre chez lui aussi quelques actes d'opéra français. Ce qui n'a pas eu de succès, raconte Charles de Brosse. Indépendamment de la prévention, où sont ici les nationaux contre toute autre musique que la leur, ajoute-t-il, il faut convenir que nos grands opéras ne sont pas faits pour sortir du théâtre, ni de l'appareil du spectacle, encore moins pour être transportés dans un pays où notre langue n'est pas assez familière, et où on les exécute à faire mourir de rire. C'est-à-dire à peu près comme nous chantons la musique italienne en France. Un air d'Arbace, Fracento Affani d'Artaserse de Leonardo Vinci. C'était Franco Fagioli, contre-ténor, avec l'ensemble Concerto Köln, dirigé par Diego Fasiolis. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Clément Diaz pour les recherches et le site, et Catherine Dereté pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.